Europe 1. Europe 1. On de la traconte.
C'est la scène inaugurale de cette terrible histoire. Elle se déroule le 10 juin 1991 à South Lake Tahoe, en Californie, aux États-Unis. Il est 7h et comme tous les matins, la petite Jacy Dugard, 11 ans, part de chez elle pour aller à l'école. Elle n'a que quelques dizaines de mètres à parcourir pour rejoindre l'arrêt de bus. Son beau-père, Carl, la suit du regard depuis son garage, comme tous les matins. Et soudain, une voiture grise freine le long du trottoir, juste à son niveau. Un homme baisse la vitre côté conducteur, il se penche, elle croit qu'il va lui demander un renseignement, elle se penche aussi, et à ce moment-là, il pointe sur elle un taser et lui envoie une décharge électrique. Jacy s'écroule sur le trottoir, elle tente de ramper vers les buissons, mais l'homme est déjà au-dessus d'elle, il la soulève, elle hurle.
Non ! Non ! Non !
Peine perdue. Il la jette à l'arrière de la voiture, il la recouvre d'une couverture et il démarre en trombe. Depuis son garage, bien sûr, le beau-père a tout vu. Ni une ni deux. Il grimpe sur son vélo et il se lance à la poursuite de la voiture. Mais elle va trop vite et lui pas assez. La voiture disparaît dans les rues de South Lake Tahoe. La suite, Jacy la racontera elle-même plus tard, beaucoup plus tard. La voiture roule. Je veux descendre, je me tortille et je me retourne dans tous les sens, mais quelque chose me cloue au sol. Je me sens incapable de penser. Ce qui m'arrive n'est pas normal, je le sais, mais j'ignore comment réagir. Je me sens effrayée, impuissante. Je voudrais hurler, mais ma bouche est sèche et aucun son ne sort. Je perds conscience. Quand je me réveille, j'entends des murmures. La voiture s'est arrêtée. Ils sont arrivés. Elle comprend qu'ils sont deux, un homme et une femme. Et l'homme rit, il a l'air satisfait, content de lui, soulagé. Il ne t'arrivera rien si tu te tiens tranquille. Mais si tu t'agites, tu vas réveiller mes chiens. Ils sont très méchants, mes chiens. Alors tu vas me suivre dans la maison, surtout tu ne fais pas de bruit, hein. Tu ne cries pas. Arrivé dans la maison, il lui ordonne de s'asseoir sur le canapé. Et elle, elle le regarde. Elle le dévisage. Il est grand. Il a des yeux bleu clair, des cheveux bruns clairsemés, un long nez et la pommade. Elle se dit qu'il n'a pas l'air méchant. C'est déjà ça. Et maintenant, il lui montre le taser. Tu vois ce pistolet paralysant ? Si tu essayes de t'enfuir, je n'hésiterai pas à m'en servir. C'est là que Jacy aperçoit deux gros chats dans la pièce. Un gros chat himalayen et un autre, un roux, un persan. Est-ce que je peux les caresser ? Tu dois attendre qu'ils viennent à toi. L'un des chats s'approche et se laisse caresser. Court moment de tendresse. Ça ne va pas durer. D'un coup, l'inconnu attrape Jacy par la main et l'entraîne dans la salle de bain. Il verrouille la porte derrière lui, il fait couler l'eau de la douche. Déshabille-toi ! Non ! Si tu n'obéis pas, je le ferai à ta place. Elle est paralysée. Alors il la déshabille de force, il lui enlève son pantalon et son t-shirt et il se déshabille à son tour. Et les voilà tous les deux, sous la douche, nus. Cette fois, ça n'ira pas plus loin. Cette fois. Après, il lui tend une serviette pour se sécher et Jacy éclate en sanglots. Alors il la prend dans ses bras et il la console. Elle écrira plus tard « Je ne veux pas du réconfort de cet horrible bonhomme, mais il n'y a personne d'autre et je me laisse aller à contre-cœur à la chaleur qu'il m'offre. » Quand est-ce que je vais rentrer chez moi ? Je ne sais pas. Je vais m'en occuper. Ma famille n'est pas riche, vous savez, mais elle paiera une rançon. Vraiment ? Oui, il suffit de dire à ma mère où je suis. Elle dit ça. Elle est nue. et il lui tend une couverture, et il l'emmène au fond du jardin, dans une sorte de cabanon, au fond duquel il y a une petite pièce. Il dit qu'elle va dormir, là, et qu'elle doit rester sage, que ça n'est pas la peine d'essayer de sortir, que la porte est fermée à clé, et que les chiens détestent les rôdeurs. Puis il lui passe des menottes, de drôles de menottes, gancées de fourrure. Et il la laisse comme ça, allongée sur le côté, nue, dans sa couverture, et menottée. « Je repasserai voir comment ça va. Te porterai à manger. » Il sort, il ferme la porte derrière lui. Elle entend une grille métallique qui grince, un verrou que l'on ferme. La pauvre Jaycee pleure en silence, et elle finit par s'endormir. 11 ans. Si elle savait seulement le temps qu'elle va passer dans ce cabanon. Des années qu'elle va passer là. Et imaginez les parents pendant ce temps-là. Le beau-père a tout vu. Elle a été enlevée sous ses yeux. Un temps d'ailleurs, au début, il est suspecté, mais pas longtemps. Dans les jours qui suivent, la famille colle des affiches. Partout, sur les poteaux électriques, sur les arrêts de bus, à l'entrée de tous les bâtiments publics. Et le FBI diffuse un avis de recherche sur son site. On recherche Jaycee, 11 ans, cheveux blonds, yeux bleus. Elle a les dents du bonheur. Elle porte un imperméable fuchsia, un t-shirt rose et un pantalon blanc. Et après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Après, vu de la famille, il ne se passe pas grand-chose. La photo de la petite est montrée à la télévision dans l'émission America's Most Wanted. Ça ne donne rien. Les jours passent, les semaines, les mois, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 9 mois. Un an après l'enlèvement de Jaycee, 400 personnes se rassemblent pour célébrer ce triste anniversaire. La mère de Jaycee est au micro.
C'est un message pour elle. Je veux qu'elle sache que je la cherche toujours.
Prisonnière à l'autre bout de la ville, Jaycee se demande un instant si cet homme ne serait pas son père. Eh oui, elle n'a jamais connu son papa. Elle voudrait tellement que cette histoire ne soit pas qu'un cauchemar. Alors elle lui pose la question. La réponse est cinglante. Non, je ne suis pas ton père. Le premier jour, il l'a déshabillée, il s'est douché nu avec elle, mais vous vous souvenez qu'il ne l'a pas touchée. Au bout d'une semaine, un matin, il lui apporte un milkshake. « Tu pourras le boire, mais quand on aura terminé ?» Terminé. Terminé quoi ? Il lui enlève les menottes. Elle écrira plus tard. « J'ai eu l'impression d'être déchiré en deux. J'essayais de penser à n'importe quoi, sauf à ce qui était en train de m'arriver. » Quand il a fini ses cochonneries, il lui dit « Dis donc, la prochaine fois, essaye de pas te débattre, hein, ça ira mieux. » Il lui remet ses menottes. Ce viol est le premier d'une longue série. Bientôt, elle ne les comptera plus. En tout cas, maintenant, elle sait comment il s'appelle. Philippe. Il s'appelle Philippe. Et une fois, il lui a parlé de sa femme Nancy. Et elle a compris qu'elle travaille dans une maison de retraite et lui, dans une jardinerie. Un jour, au bout de plusieurs mois, Philippe, donc, lui dit qu'il ne lui mettra pas les menottes à condition qu'elle reste docile. Elle promet. La conséquence, c'est que sans menottes, elle peut maintenant accéder à l'autre pièce du cabanon, son univers s'élargit de 5 mètres carrés. Et dans cette petite pièce qu'elle découvre, il y a 2 enceintes, un ampli, un micro et une batterie. Philippe lui dit qu'il est auteur-compositeur et qu'il sera bientôt célèbre. Tu parles. C'est pas la musique qui va le rendre célèbre. À part ça, bien sûr, Jaycee est tenté d'ouvrir la porte, de sortir du cabanon, même s'il est fermé par une lourde grille, il y aurait peut-être un moyen de sortir. Elle n'essaye même pas. J'ignore comment j'aurais réagi si j'avais trouvé la porte ouverte. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouve. Et Philippe affirme que les Dobermann patrouillent dans la cour. J'ai peur qu'ils découvrent que j'ai tenté d'ouvrir la porte. Ils devinent toujours tout. Je ne veux pas avoir d'ennui. Je veux juste rentrer chez moi. Le temps passant, il se met à lui faire des petits cadeaux. Un jour, c'est une télévision en noir et blanc. Et surtout, au bout de 2 ans de captivité, en juillet 93, il lui offre un chaton de 2 mois. JC a maintenant 13 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est enfermée dans ce cabanon, 2 ans qu'elle est le paillasson sexuel de ce Philippe, et il lui offre un chaton. Un joli petit chaton qu'elle baptise tout de suite Tigrou. Vous imaginez les moments de tendresse que cette petite fille peut vivre désormais avec ce chat? Quand il ronronne, quand il lui lèche le nez avec sa petite langue râpeuse. C'est unique comme moment. Sauf qu'au bout de quelques semaines, l'autre décrète que Tigrou ne supporte pas l'enfermement. Alors il le lui retire d'un coup. C'est ça les grands pervers. Ça donne, ça prend. Le chaud, le froid. Un peu de tendresse, beaucoup de sauvagerie. Ça fait 2 ans que JC est enfermée dans ce cabanon. Et depuis 2 ans, elle est nue. Nue 24 heures sur 24, sous sa couverture. Mais aujourd'hui, il lui a apporté des vêtements et des sous-vêtements. Et un peu plus tard, il l'installe dans un autre cabanon, plus grand, tout près du premier. Une sorte de studio avec des barreaux aux fenêtres. Toujours obstrué avec des couvertures et des serviettes. Mais sur les bords et dans les coins de la fenêtre, on aperçoit des buissons, un jardin. Maintenant, dans ce nouveau cabanon, il y a un canapé bleu, une télévision en couleur, un tabouret, un bureau, un réfrigérateur et un seau. Alors oui, le confort s'est amélioré. Mais les viols ne se sont jamais arrêtés. Philippe revient toujours pour le sexe. Il prétend que je l'aide à régler ses problèmes. Et que s'il m'a enlevé et amené ici, c'est pour éviter de blesser ses semblables. Je trouve ça extrêmement bizarre. Mais d'un autre côté, je n'ai aucune envie que d'autres subissent le même sort que moi. Alors quel choix me reste-t-il? J'espère que ma gentillesse et mon obéissance le persuaderont de me laisser rentrer chez moi. Certains viols durent des heures. Et parfois des nuits entières. Il appelle ça des cavales. Et pendant ces cavales, il se drogue. Il prend de la méthamphétamine et un produit qu'il appelle le crank et qu'il fume. Et voilà qu'un jour, Philippe disparaît. C'est Nancy, sa femme, qui prend la relève. C'est elle qui vient la nourrir. Parfois, elles regardent un film, toutes les deux. Il y a même des fois où elles dorment ensemble. Ça dure un mois entier, sans cavale. Et quand il revient, il explique qu'il était en prison. Il se serait fait pincer pour consommation de stupéfiants. La police est venue à la maison. Elle a trouvé de la drogue. Et ce qui est dingue, c'est que les policiers n'ont même pas poussé jusqu'au cabanon. Elle était là. Ils sont passés à côté d'elle. Ils n'ont rien deviné. Et ils ne se sont pas non plus rancardés sur le bonhomme, parce que, ça on l'apprendra plus tard, quand il est arrêté pour détention de drogue, il a un casier judiciaire. Un casier judiciaire qui aurait dû les pousser à fouiller la maison jusqu'au jardin. En 1976, Philippe a été condamné pour enlèvement et viol. Il en a pris pour 50 ans. Il en a fait 22. Il est en liberté conditionnelle. Ils n'ont même pas pensé à fouiller la maison jusqu'au cabanon. Quel raté ! Quel raté ! Et c'est pas le seul. Un jour, Philippe explique qu'il a appris qu'une descente de police se prépare. Alors il embarque Nancy et JC en voiture et il les emmène loin, dans un mobilhome, sans barreaux aux fenêtres. Là-bas, elle aurait pu s'échapper. Mais elle ne l'a pas fait, car elle avait trop peur. Je suis terrifié à l'idée qu'il m'abandonne définitivement dans un lieu inconnu. Le soir même, ils rentrent à la maison, tous les trois, et elle retrouve son cabanon. Le dimanche de Pâques 1994, Philippe et Nancy apportent à JC des œufs de Pâques. Et ils ont quelque chose à lui dire.
Voilà. On a remarqué que ton corps a changé. On pense que tu es enceinte.
Enceinte? À 14 ans? Et enceinte de lui? Bien sûr. Eh bien, vous n'allez pas le croire. Cet enfant, elle l'attend avec impatience. Je parle à mon ventre. Je lui raconte des histoires. Chaque fois que je reçois un coup de pied, c'est comme si ma solitude, ça me nuisait. Et elle se dit, pourvu qu'on ne me l'enlève pas, ce bébé. Comment lui enlever Tigrou, le chat, il y a quelques mois? Et elle accouche dans le cabanon. C'est une fille. Et Philippe décide de l'appeler Angel. JC écrit, depuis la naissance d'Angel, la vie est devenue beaucoup plus agréable. Philippe ne m'oblige plus à coucher avec lui. Ça ne durera pas. Les cavales reprennent, et les jours, et les mois, et les années passent, et Angel grandit auprès de sa mère, dans le cabanon. JC a maintenant 17 ans. Angel en a 3. Et elle la nourrit toujours au sein. Et voilà qu'elle tombe à nouveau enceinte. Et elle écrit. Philippe se déclare très heureux. Il est convaincu que ce sera encore une fille, car Dieu a compris ce dont il avait besoin. Terrifiant, il a déjà en projet de violer les filles de JC, qui sont aussi ses propres filles. Soufflant toujours le chaud et le froid, il la laisse désormais sortir dans le jardin. Rassurez-vous, il a monté une palissade. La maison, le jardin, les cabanons, il appelle ça son ranch. Le deuxième bébé naît en novembre 1997, plus de 6 ans après l'enlèvement de JC. Et c'est une fille. Et Philippe décide de l'appeler Starlight. Je suis lié à ces gens. Par des liens invisibles qui me tiennent lieu de menottes permanentes. Personne ne semble se soucier de ma présence ici. Et les jours passent, qui font des mois. Les mois font des années, dans la routine de la vie dans le cabanon, au fond du jardin. En 2006, 15 ans après l'enlèvement de JC, une habitante d'Antioche, à 70 km à l'est de San Francisco, écrit à la police et elle signale l'attitude étrange de son voisin, un certain Philippe Garrido. Il m'a raconté qu'il était psychotique et qu'il souffrait d'addiction sexuelle. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vu jouer des petits-enfants dans des tentes qui sont à l'arrière-cour de la maison du couple. Il y a des enfants là-bas derrière, c'est sûr. Et comme c'est sérieux, l'adjoint du shérif se déplace en personne. Mais il ne pousse pas l'investigation bien loin. Il se contente de poser quelques questions à Philippe Garrido, donc, sur le pas de sa porte. Il ne va pas dans le jardin, il n'entend pas de voix d'enfant. Il reste 8 minutes et il repart. De jour en mois et de mois en année, 14 années s'écoulent. JC, qui avait 11 ans quand elle a été enlevée, est maintenant une adulte. Elle a 25 ans. Et Philippe décide de la mettre au travail. Il s'est acheté une grosse imprimante, un ordinateur et du papier. Et il a monté une entreprise d'impression de cartes de visite. Printing for less, imprimé pour moins cher. Et JC devient sa secrétaire. Elle prend les commandes des clients au téléphone ou par mail. Et parfois, elle crée le design des cartes de visite. Au téléphone, elle se fait appeler Alissa et elle se fait passer pour la fille de Philippe. J'adore cette nouvelle activité. Et je suis très fier de moi. Philippe me donne de plus en plus de travail. C'est tellement agréable de ne plus s'ennuyer comme avant. Désormais, c'est elle aussi qui fait l'école à ses deux filles, tous les matins. Elle trouve sur Internet tout ce dont elle a besoin pour préparer ses cours. Alors vous allez me dire, puisqu'elle a accès à Internet, au téléphone et au mail, pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas la police? Pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas ses parents? Pourquoi ? Parce que Philippe lui a dit qu'il pouvait tracer toutes ses connexions. Alors elle a peur. Ce qui m'attendait dehors me terrorisait. Je craignais d'être incapable de protéger mes filles en partant ou en tentant de les emmener avec moi. Je savais qu'elles ne risquaient rien dans l'arrière-cour. Personne ne pourrait jamais les enlever, comme je l'avais été. En 2008, ça fait 17 ans que JC a été enlevée devant chez elle. Et voilà qu'une équipe de policiers débarque chez Philippe et Nancy. C'est une visite dans le cadre d'un contrôle des délinquants sexuels inscrit au fichier de Californie. Ils fouillent consciencieusement toute la maison. Mais une fois de plus, ils ne poussent pas dans le jardin et ils repartent comme ils étaient venus. C'est la troisième fois que la police passe à côté de JC. La troisième fois. Et cette fois, ils savaient que l'autre était malade, que c'était un tordu. Ils le savaient. Ça coûtait quoi d'aller jusqu'au fond du jardin? Ouvrir la porte de ce fichu cabanon, hein? Une minute? Deux minutes? Eh bien non. Ils sont repartis. Heureusement qu'un jour, Philippe va commettre une erreur. Parce que sinon, elle y serait encore. Nous sommes à la fin du mois d'août 2009. Ça fait 18 ans que Philippe Garrido a enlevé JC. 18 ans. Elle avait 11 ans, elle en a 29. Et cet été-là, en 2009, il déclenche une crise mystique. Il entend des voix et il prétend leur répondre grâce à une boîte noire. Il est en plein délire. Il veut même créer une église. Il veut l'appeler « Désir de Dieu ». Et il en sera bien sûr le prédicateur. Et il veut organiser une réunion publique sur le campus de la prestigieuse université de Berkeley. Et pour ça, il doit aller demander l'autorisation à la police. Et vous savez avec qui il va voir la police? Il y va avec Angel et Starlight, les deux filles de JC qui sont aussi ses filles à lui. Et il tombe sur une policière qui a du pif. Ali Jacob. Elle a des années de terrain derrière elle. Et ce type-là, elle ne le sent pas. Pourquoi? C'est difficile à dire. D'abord, c'est un illuminé, ça se voit. Mais il y a aussi ces deux petites filles qu'il tient par la main. Elles sont cadavériques et blanches comme des cachets d'aspirine. En plein mois d'août. Et l'autre qui délire plein tube, qui prétend interagir avec les gens. Alors elle leur demande « Où est-ce que vous allez à l'école ?» Et les deux petites d'une seule voix lui répondent « C'est maman qui nous fait l'école. » Ça n'est pas interdit, mais ça renforce son idée qu'il y a un problème. Alors elle les laisse repartir, mais elle va tout de suite au fichier. Philippe Garrido. Garrido, voyons. Et c'est là qu'elle découvre que le zigoto est fiché comme délinquant sexuel, condamné en liberté conditionnelle et portant un bracelet électronique depuis 1994. Alors elle appelle tout de suite son agent de probation. C'est lui qui est chargé du suivi de la conditionnelle de Philippe Garrido. Allô? Dis donc, c'est normal que ton Garrido se promène avec ses deux filles sur un campus universitaire?
Ses filles? Mais Garrido n'a pas d'enfant.
Ah bon? Alors nous avons un problème. Un problème? C'est le moins qu'on puisse dire. Le lendemain, Garrido est convoqué au bureau de probation. Et allez savoir ce qui lui est passé par la tête, il débarque avec toute la famille. Nancy, JC et les deux petites. Ça paraît délirant, mais il veut montrer qu'il est un honnête père de famille. Et avant de partir, évidemment, il a donné une consigne à JC. Tu dis que t'es la mère des filles, ok? Que tu m'as donné l'autorisation de les prendre avec moi, d'accord? Et que tu es complètement au courant de mon passé, d'accord? Et si on te pose trop de questions, tu demandes d'avoir un avocat et tu réponds pas. Quand il voit arriver toute la smala, l'agent de probation en reste baba. Mais il n'est pas dupe. Alors il met Nancy, JC et les deux filles à part dans un bureau et Philippe dans un autre. Et évidemment, JC fait comme Philippe lui a dit. Ça fait 18 ans qu'elle est sous sa coupe. Je suis la mère des filles. Et elle s'en tient là. Ok. Sauf que dans le bureau d'à côté, Philippe commence à craquer. Il s'embrouille Alors l'agent de probation appelle le FBI. Et c'est une femme officier qui débarque, qui prend JC, seule, dans un bureau. Elle sait y faire. Elle lui parle avec douceur. Et elle est prête à attendre de longues minutes quand elle pose une question. Elle a tout son temps. Je veux voir un avocat. Pourquoi vous demandez un avocat? Puisque vous prétendez n'avoir rien fait de mal? Que vont devenir mes enfants? Ne vous inquiétez pas, vous allez les revoir. Je ne sais pas quoi faire. Il suffit de nous dire qui vous êtes. Je ne peux pas. La policière laisse JC seule. Et quand elle revient, elle lui annonce. Il a tout avoué. Il a confessé vous avoir kidnappé il y a plusieurs années. Et elle voit JC chanceler. Et elle lui demande. À quel âge avez-vous été kidnappé? 11 ans. Et aujourd'hui, quel âge avez-vous? 29 ans. Et comment vous appelez-vous? Son nom? Son nom, elle ne l'a pas prononcé depuis 18 ans. Elle n'y arrive pas. Elle demande une feuille de papier et elle écrit JC Lee Dugard. Et tout de suite, elle demande si elle peut voir sa mère. Et l'officier de police l'appelle sur le champ, au téléphone. Allô, madame? Oui, bonjour, madame, le FBI à l'appareil. J'ai une grande nouvelle pour vous, madame. Nous avons JC ici, avec nous.
On a retrouvé ma fille! On a retrouvé ma fille!
Allô? Maman? C'est JC. J'ai deux petites filles. Viens vite!
JC va passer sa première nuit de liberté avec ses deux filles, seule, dans un hôtel. Totalement perdue, évidemment. Mais dès le lendemain, elle retrouve sa mère et quelques jours plus tard, elle donne une interview à People Magazine.
JC Dugard a perdu ses cheveux blonds de petite fille pour une coupe châtain de jeune adulte. Elle ne fait pas ses 29 ans et ses yeux bleus souriants la font rayonner à la une de People Magazine. Ses proches disent que ce n'est pas uniquement une pause, que depuis le Havre secret où elle réapprend à vivre avec ses deux filles, elle vit de vrais moments de bonheur, comme le confirme Peter Castro, le directeur adjoint de la revue People.
Elle a voulu faire savoir au monde qu'elle allait bien. Avec ses filles, elle suit une thérapie équestre pour retrouver confiance en elle.
De plus en plus de psychologues utilisent des animaux pour réinsérer des victimes dans le monde où elles ont un jour dérapé dans l'horreur, comme l'explique le psychothérapeute Jeffrey Gardier.
Cette thérapie équestre, c'est formidable. En s'occupant d'un cheval, en montant dessus, en tombant, en maîtrisant une situation, elle retrouve confiance. Plus tard, elle découvre que celui qui a kidnappé leur mère est peut-être leur géniteur, mais ne peut plus être leur père. C'est le chemin pour accepter que d'autres hommes, plus bienveillants, entrent dans leur vie.
JC Dugard se prépare en même temps mentalement à rouvrir les yeux sur ses 18 années de détention. Elle a fait savoir au procureur récemment qu'elle témoignerait dans le procès de son ravisseur dans les mois qui viennent. Washington, François Clémenceau, Europe.
Philippe Garrido, 58 ans, et Nancy Garrido, 55 ans, sont inculpés de 29 chefs d'accusation, dont enlèvement et séquestration, agression sexuelle et viol sur mineur, et entente et complicité. Leur procès se tient 2 ans plus tard, en juin 2011, devant le tribunal du comté d'Eldorado. JC refuse d'assister au procès. Elle ne supporte pas l'idée de les revoir. Elle a juste demandé à sa mère de lire une lettre devant la cour. « J'ai haï chaque seconde et chaque jour de ces 18 ans à cause de toi et de ta perversion sexuelle à laquelle tu m'as forcé. » Philippe Garrido plaide coupable. Il est condamné à 431 années de prison. Et Nancy à 36 ans de prison, dont 20 ans incompressibles. Aucun des deux ne fait appel. Et quelque temps plus tard, JC obtient 20 millions de dollars de dommages à intérêts de la part de l'administration pénitentiaire pour négligence, pour l'absence totale de suivi du condamné Garrido après sa sortie de prison. JC a aujourd'hui 37 ans. Elle a créé une fondation pour aider les familles qui ont subi des traumatismes à se reconstruire, notamment grâce à la thérapie par les chevaux, la thérapie équestre. Et elle a écrit un livre dont évidemment nous nous sommes en partie inspirés pour vous raconter aujourd'hui son histoire. « On m'a volé ma vie », paru en France chez Robert Laffont.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.